Radio Okapi.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute. Voici votre journal d'information. On commence tout de suite avec le grand titre de ce midi. Exode silencieux à Rutshuru. Des milliers de déplacés fuient les opérations de traque menées par le M23 dans la chefferie de Bouito, plongeant les zones de refuge dans une précarité alarmante. Génocoste en RDC, Denis Mukwege alerte sur une balkanisation en marche. Le prix Nobel de la paix dénonce également le silence international face aux atrocités et au pillage de ressources dans les zones occupées. Entretien du jour, Tombola Mouké, directeur général de l'École nationale d'administration, est notre invité. Il revient sur le recrutement de la 10e promotion de l'ENA et les innovations apportées au processus et les ambitions de cette formation destinée aux futurs cadres de l'État. Gisèle Cage au micro. Ce journal s'ouvre au Nord Kivu, où les villages de la chefferie de Bouito dans les territoires de Rutshuru se vident peu à peu. Les populations fuient les opérations de traque contre le FDLR et le Wazalendo menés par le rebelle du M23 AFC. Dans les zones de refuge, la précarité et le quotidien de ces déplacés qui ont tout abandonné. Le point avec Jean Gandou.
C'est la deuxième semaine consécutive que les rebelles sont à la recherche des FDLR et des Wazalendo dans cette région. Le délai leur accordé pour déposer les armes et se rendre a expiré depuis le 25 juillet dernier. Et la traque se poursuit. Après la fuite des habitants de Badolité, Kasovu, Ruindi, Kojo, Rutiba, Munguli, Kasoko, Mushababwe, c'est au tour des habitants des villages de Louvé, Kiondo, Munguli, Chola et Kinyati, situés près de Nyanzale en territoire de Rutshuru, d'abandonner leur village. Un déplacé arrivé hier à Tongo affirme la recrudescence des affrontements dans la région. D'après cette source, c'est au moins chaque jour que des bombes résonnent dans leur entité et il est difficile de résister vu l'ampleur de la situation. Ils parlent des combats à répétition devenus leur vécu quotidien. Difficile d'accéder même au champ pour aller chercher de quoi manger car l'accès nous est interdit, a-t-il indiqué. Et devant une telle situation, nous sommes contraints de nous enfuir après quelques jours de résistance, nous a-t-il confié. Certains déplacés se dirigent vers le groupement Tongo, alors que d'autres prennent la direction du village de Masisi. Il s'ajoute à d'autres déplacés qui vivent aussi dans des conditions précaires ayant tout abandonné derrière eux. Soulignant que d'autres déplacements sont aussi signalés dans le groupement des Binza, chefferie de Bouicha, pour la même cause.
Restons dans la région, les habitants du groupement des Bambo dans la chefferie de Bouito vivent une situation dramatique depuis plusieurs mois. Les rebelles du M23 leur interdisent l'accès aux champs et confisquent toutes leurs récoltes. Privés de nourriture, chassés de leur village, les habitants dénoncent une répression qui les pousse vers une famine imminente. L'un des notables des Bambo, Isaac Kibira, lance un cri d'alarme. On l'écoute.
En tout cas, les gens souffrent sans précédent. Ce qui nous blesse beaucoup, c'est dire que des chefs appartenant à la chefferie, aux autochtones, les militaires de M23, après le mythe de Bambou, ils ont dit que des chefs appartenant aux FDLR pendant que 99,9%, en tout cas, c'est la production agricole qui appartient aux autochtones. Les FDLR, vous les connaissez dans la contrée, ils ne sont pas nombreux, c'est plus qu'il y a des porteurs d'armes, mais les militaires de M23, ce sont ceux qui vont récolter ça. D'ailleurs, ils avaient commencé depuis longtemps, sont en train de décortiquer les maïs au niveau de Kapopi, de Kisegouro, Boudafa, là où on avait spolié les parcs, dans le Kanyangiri de Kazaro, ce sont eux, dans la partie Kazaro aussi, ce sont eux. La partie, c'est du côté parc, c'est là où ils sont en train de récolter la production agricole appartenant à la population autochtone. Mais la partie-là, de l'ouest, là, en tout cas, ils ne récoltent rien. Sauf qu'ils ont interdit à la population d'accéder à ces champs. Alors, la population a tellement fait, si vous attendez qu'il y a quelqu'un qui a été liquidé dans les champs, c'est normal parce que rester à la maison, c'est la mort, et aller là-bas, c'est la mort. Donc, ils préfèrent aller là-bas. S'ils rentraient, ils y avaient qu'à manger. Les enfants pourront quand même y trouver à manger ces jours-là.
Sécurité toujours, nouvelle attaque meurtrière en Ituri. Trois personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche à Idou, un village situé à 27 km de Komanda sur la RN4 dont le territoire d'Irumu. L'attaque est attribuée aux ADF et les bilans pourraient s'alourdir. Des fouilles se poursuivent sur la montagne dite Israël dont la chefferie de Walese Vankoutou. Le point avec Martial Kizabiamungu.
C'est vers 19h heure locale qu'un groupe d'hommes armés, des fusils et machettes s'est introduit au village de Douou en tirant des coups de feu dans toutes les directions. Selon des témoins, ces rebelles se sont mis à casser quelques portes de maisons avant que les FRDC basés dans cette entité ne réagissent après avoir été alertés. Et s'en est suivi un accrochage de quelques minutes, soulignent les activistes des droits de l'homme qui vivent dans cette contrée. Ce dimanche matin, trois corps, dont une femme de troisième âge, deux personnes tuées par balle ont été ramassées, rapporte la même source. Cette dernière indique que plusieurs personnes sont portées disparues. Des militaires FRDC et un groupe de la population se sont rendus ce matin vers la concession Kaero sur la montagne d'Israël. Des sources officielles qui confirment cette attaque continuent à appeler la population à alerter toujours avant les temps pour ne pas permettre à l'ennemi de commettre ses exactions contre les civils. C'est la deuxième attaque de rebelles des ADF à Idou après celle du mois de mars de cette année, causant la mort d'une dizaine de personnes. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Toujours en Ituri, nouvelle nuit de violence à Bounia. Une fusillade a éclaté dans le quartier Moudimpela dans la nuit de samedi à dimanche. Un homme d'une quarantaine d'années a été grièvement blessé par balle au niveau du thorax après l'irruption des bandits armés dans l'hôpital Alti spécialisé dans le traitement de la tuberculose. Les assaillants ont saccagé le laboratoire avant de tirer sur les laboratoires. Borantin, désormais dans un état critique. C'est la deuxième fusillade en moins d'une semaine à Bounia après celle de mercredi dernier au quartier Yambiaya qui avait fait 3 morts et 14 blessés. Bazouélé, cérémonie officielle au stade Tata Mazika Tebe. Le gouverneur de province Mike David Mokeni Amissi a appelé le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise à servir la population avec intégrité et dans le strict respect de la constitution et des lois de la République. Cet appel a été lancé hier à l'occasion de la remise de l'étendard au commissaire divisionnaire adjoint John Chabwin Mihigo à un événement marqué par une forte présence des autorités politico-administratives, des représentants de la société civile, de nombreux habitants venus assister à la cérémonie. Jacques Moukonkole nous en parle.
D'entrée de jeu, le gouverneur du Bas-Ouélé pose les bases de cette cérémonie. Elle s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État, celle de faire de la police nationale congolaise une force moderne, républicaine et proche de la population. Ensuite, Mike David Mokeni Amissi invite le nouveau commissaire provincial de la police dans le Bas-Ouélé à servir la population de cette entité dans le respect strict de la constitution et des lois de la République et d'ajouter « Cet étendard est un symbole de l'autorité qui vous est conférée sur l'ensemble du corps de la police de cette juridiction. Il incarne votre pouvoir, votre responsabilité républicaine et le lien sacré entre la police et la nation. » Par ailleurs, Mike David Mokeni rappelle à l'ensemble du corps de la police du Bas-Ouélé l'obligation de servir la République en respectant les lois établies. Cela signifie, dit-il, respecter le peuple en bannissant les antivaleurs, notamment la corruption, l'injustice, les extorsions. Enfin, face aux enjeux du moment, la coordination entre services étatiques apparaît comme une exigence incontournable, conclut l'autorité provinciale. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
À l'occasion de la commémoration du génocide, ce 2 août, le prix Nobel de la paix a lancé un appel fort à l'opinion nationale dénonçant le risque croissant de balkanisation de la République démocratique du Congo. Dans son message, il fustige le silence complice de la communauté internationale face à ce qu'il qualifie de tragédie en cours et condamne les accords diplomatiques opaques qui, selon lui, légitiment les pillages des ressources naturelles du pays. Le docteur Mukwege s'indigne également des atrocités commises dans les zones occupées par le rebelle du M23 AFC RDF et appelle les Congolais à se mobiliser pour défendre l'unité nationale. Suivez à présent un extrait de son message sélectionné par Ronelin Tibonera.
La diplomatie congolaise se distinguerait davantage en exigeant un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, en déployant des efforts continus pour réclamer des sanctions internationales à l'encontre des agresseurs et en réclamant la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans l'intervalle, il est révoltant de constater que le plan de balkanisation de la RDC poursuit inexorablement son cours après l'évasion des zones minières et l'installation d'administrations parallèles. Les rebelles de l'AFC M23 s'appuient sur le climat de terreur qu'ils ont instillé dans les territoires qu'ils occupent pour promouvoir un fédéralisme qui préfigurera l'éclatement du pays, alors que toutes les structures de la République sont en faillite.
Dans la même veine, appel vibrant à la conscience nationale, le consortium Pamoja Kwamani exhorte le Congolais à sortir de l'indifférence face aux millions de morts causés par la guerre économique à l'occasion du génocide. Jean Chrysostome Kijana dénonce la balkanisation de la banalisation plutôt de la souffrance nationale et appelle à un statut, à un sursaut patriotique. Il est au micro de René Lintim.
Qui sont les traîtres? Qui collaborent avec les ennemis? Qui collaborent avec les envahisseurs? C'est nous, les Congolaises et Congolais. Qui donnons le moyen aux envahisseurs? C'est nous-mêmes, les Congolaises et Congolais. Qui permet à ce que le pays soit la ruée de toutes les nations, que nous fassions l'objet des moqueries de tous les pays du monde? C'est notre gouvernement qui fait à ce que le pays soit aujourd'hui dépourvu, sans armée, sans force de service de sécurité conséquente, sans des dispositifs pour la défense de l'intégrité territoriale, pour la protection et la sécurité des Congolaises et Congolais. Et nous devons continuer à enregistrer des morts. Jusqu'à quand allons-nous continuer à enregistrer des morts? C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Jusqu'à quand allons-nous continuer à enregistrer des morts et allonger les listes de nos martyrs, de nos victimes du génocide congolais?
Au Katanga, c'est samedi, le service national a remis 1000 bancs pupitres à l'université de Lubumbashi. Mais ce n'est pas tout, ces bancs ont été fabriqués par d'anciens Kuluna. Aujourd'hui, réinséré et devenu bâtisseur de la nation, une production sortie tout droit du tout nouvel atelier du service national installé dans la ville. Paulin Munanga nous en dit plus dans ce reportage.
Ces bancs visent à améliorer les conditions d'études au sein de l'université de Lubumbashi. Une étudiante remercie les bâtisseurs pour cette action.
Nous disons sincèrement merci, premièrement, à cette jeunesse qui a travaillé pour cette œuvre et nous nous engageons à donner les meilleurs de nous-mêmes pour construire notre pays plus beau qu'avant.
Le recteur de l'université de Lubumbashi salue la bravoure du commandant du service national qui, selon lui, resocialise les jeunes. Gilbert Kishiba.
Un remerciement au général Kasongo, ici présent, pour son optimisme. Il a placé la barre haut, à hauteur de la vision du président de la République, chef de l'État. Lorsque parlant du service national, il le voit, il envisage, il le projette comme l'interface entre l'école et la société.
Le commandant du service national, étant aussi un ancien étudiant de l'université de Lubumbashi, tient à rappeler l'objectif du service national qui est rattaché à la présidence de la République. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabouik souligne que le service national a été créé pour encadrer les jeunes en vue de les engager à la reconstruction et au développement de notre pays. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Maniema Cap sur Kindu, dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, le gouvernement provincial réaffirme sa volonté de garantir la sécurité et la tranquillité des citoyens. Mercredi 30 juillet, le gouverneur a remis 200 téléphones Android, 20 radios Motorola et 2000 sifflets aux chefs de quartier et de bloc de la ville de Kindu. Depuis la tribune centrale, Moussa Kabwankoubi précise que cette initiative vise à renforcer la sécurité de proximité. Reportage signé Florence Kizalunga.
La remise de ce moyen de communication fait suite à la promesse du gouverneur aux chefs des quartiers et blocs qui éprouvent d'énormes difficultés pour une communication rapide, surtout en cas d'urgence. Moussa Kabankoubi dit renforcer la sécurité des proximités.
Là, nous venons de renforcer la sécurité des proximités que nous appelons à Swahili Nyumbakom. Nous avions promis aux chefs des quartiers, aux chefs des blocs, des téléphones Android parce que désormais nous allons créer un groupe où sera le gouverneur, des membres du gouvernement, des chefs de quartier et des blocs pour suivre de très près la situation sécuritaire de la ville de Kiev.
Pour les chefs de quartier, c'était un besoin urgent pour eux. L'un d'eux, Bakari Milabo de Marcel, chef de quartier Tokoloté.
La sécurité, c'est la communication. Ça va beaucoup nous aider et nous remercions beaucoup le gouverneur de la province qui vient de nous doter le téléphone. On ne peut pas utiliser pour nos familles, nous allons utiliser ça pour la sécurité de la ville de Kiev.
Les organisations de la société civile se disent satisfaites de cet acte. Crispin Muyololo de l'ONG B2H.
Pour nous, c'est une joie de voir que les chefs de bloc et les services de sécurité soient dotés à moyens de communication. Ça va rassurer notre sécurité. Une fois aussi, ces biens sont utilisés pour la même finalité.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Ghazza à Khan Younes, un employé du Croissant Rouge palestinien a perdu la vie et trois autres ont été blessés lors d'une frappe israélienne qui a visé le siège de l'organisation située dans le sud de la bande de Gaza. L'attaque survenue ce dimanche a provoqué un incendie au premier étage du bâtiment selon un communiqué publié par le Croissant Rouge palestinien sur les réseaux X, anciennement Twitter.
L'invité.
Recrutement en cours à l'École nationale d'administration du 31 juillet au 9 août 2025. Les candidatures pour la 10e promotion de l'ENA sont ouvertes. Invité de Radio Okapi, le directeur général de cet établissement public, Tombola Mouké, annonce que 100 candidats seront retenus pour une formation intensive de 12 mois. Les inscriptions se font exclusivement en ligne via le site www.ena. .cd grâce à l'application MyENA qui permet de dématérialiser entièrement le processus de recrutement. Tombola Mouké s'est entretenu avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur le directeur général.
Bonjour monsieur Blaise.
L'école nationale d'administration vient de lancer les recrutements des candidats de sa 10e promotion via l'application MyENA. Vous ne craignez pas que les candidatures soient limitées du fait du faible taux d'accès à l'internet à travers les pays?
Non, pour trois raisons. D'abord, ce n'est pas une nouveauté. L'ENA réceptionne les candidatures exclusivement en ligne depuis le recrutement de sa 2e promotion, donc depuis 2015. Et les candidatures nous parviennent toujours de partout, de l'ensemble du territoire national. Deuxième raison, je pense que depuis cette époque, il y a quand même 10 ans, 2015, la couverture Internet s'est améliorée dans le pays, y compris l'accès aux smartphones dans le pays. Troisième raison, et enfin, et c'est la plus importante, je pense, le candidat qui sont ciblés, ceux qui sont titulaires d'un diplôme de type Bac plus 5 minimum, peu importe où ils se trouvent sur le territoire national, ils savent comment accéder à une connexion Internet et candidater. Par ailleurs, l'application mobile qui a été mise à leur disposition, MyENA, depuis la semaine dernière, leur a permis, bien avant ces lancements, de commencer à créer des comptes. Nous sommes à plus de 12 000 comptes créés à ce jour sur l'ensemble du territoire national. Et la période de candidature court jusqu'au 9 août. Tous ceux qui sont intéressés ou qui se trouvent sur le territoire national, ils ont non seulement le temps, mais en plus, ils savent.
Pourquoi avoir limité le nombre à 100 alors que chaque année, les universités et institutions supérieures du pays déversent des milliers de licenciés et gradués?
Le nombre de 100 n'est pas fixé par l'École nationale d'administration, c'est fixé par le gouvernement à travers la fonction publique et l'employeur qui exprime le besoin. L'ENA est un organe au service du gouvernement en charge du recrutement et de la formation de hauts fonctionnaires, de jeunes talents qui rejoignent l'administration pour aider à la moderniser. Donc nous, on s'y conforme. L'autre volet, peut-être que les besoins les plus importants, c'est le gouvernement, l'administration publique de l'exprimer, mais l'ENA éprouve encore quelques contraintes en termes logistiques de capacité d'accueil. Pour le moment, notre campus ne peut pas accueillir plus de 100 élèves par promotion. Il y a une volonté d'accroître notre capacité d'accueil au gouvernement.
Quels sont, selon vous, les avantages des bénéficiaires d'une formation au sein de l'École nationale d'administration?
C'est intégrer l'administration publique par la grande porte. Les jeunes talents qui sont recrutés pour devenir hauts fonctionnaires, parce que nous formons de hauts fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils sont en charge, ils sont outillés pendant la formation pour être en charge de la conception, la mise en œuvre, l'évaluation des politiques publiques. Ils sont boursiers pendant la formation. En plus d'intégrer l'administration publique au terme de leur formation, ils intègrent ce qu'on appelle le corps des administrateurs civils. Ça comporte des avantages aussi. Et l'objectif, c'est vraiment, en plus de vouloir rajeunir, de contribuer à professionnaliser les services publics. Je pense que c'est une...
Avez-vous pris des dispositions pour les candidats qui seront retenus dans les provinces sous occupation rebelle?
Pour votre gouvernement, l'épreuve écrite est organisée dans les 26 provinces. Nous espérons que d'ici au lancement de l'épreuve écrite, ce sera en fin septembre, le 21 septembre, que la situation va s'améliorer pour permettre d'organiser l'épreuve écrite dans le chef-lieu, le lieu habituel. Mais il a également indiqué que si la situation n'évolue pas dans ce sens-là, l'épreuve écrite sera organisée dans le chef-lieu délocalisé, c'est-à-dire Beni pour le nord Kivu, Uvira pour le sud Kivu.
Monsieur Tombola Mouké, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à Tombola Mouké, directeur général de l'École nationale d'administration, pour ses éclairages sur le processus de recrutement de la 10e promotion. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.ena.cd et explorez l'application MyENA. L'entretien a été conduit par Blaise Ndongala Mayanda sur Radio Okapi. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir accompagnés. À la présentation, Gisèle Cage, mise en onde Alain Goy, coordination Jean Gandou. Pour rester informé en continu, n'hésitez pas à vous connecter à votre radio via nos réseaux sociaux et à consulter notre site web officiel où ce journal est également disponible en podcast. Je vous retrouve très bientôt, toujours sur la même fréquence. Passez un excellent dimanche à toutes et à tous.